Déjà, on peut peut-être recontextualiser le brunch numérique parce qu'en fait, moi, ça me fait super plaisir de faire un brunch avec Claire. Puisque quand on s'est rencontrés à Québec lors d'un vernissage, on a sympathisé et on s'est donné rendez-vous un dimanche matin dans un café pour faire un brunch. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé nos discussions entre art et philosophie, sachant que ni l'une ni l'autre, finalement, on connaissait le territoire de l'autre, ou si ce n'est par simple curiosité. Voilà, c'est un peu à nouveau.
On continue à Montreuil,
c'est une espèce de déjà vu, mais là c'est bien parce que ça, du coup, ça s'étend à d'autres personnes. Et donc l'intérêt de ces petits déjeuners qu'on faisait, c'était de pouvoir échanger chacune sur ce qu'on connaissait de notre territoire. Et être assez didactique, puisque des fois, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, et du coup, on essayait de s'expliquer les choses. Donc, c'était un peu un apprentissage commun. Ça, je trouvais super bien. Voilà. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est quand j'ai vu ce que toi, tu avais marqué, donc la place de la technique dans l'art, je me suis dit finalement, cette histoire de place, c'est intéressant. Et moi, j'aurais sous-titré un peu comme si c'était à ta place. Genre. Reste où t'es, la technique, tu vois, c'est à la fois c'est à ta place, je me mets à la place de Claire, elle se met à la place de la mienne, et puis on peut discuter autour de quelque chose, mais en même temps c'est, c'est la technique reste à ta place en art, donc peut-être développer là-dessus.
On peut même carrément rebondir là-dessus, puisque quand on a commencé à discuter un peu avec Julie pour préparer ce brunch partagé, étant dit, tiens alors donc, de quoi on parle, on s'y prend comment, sur quoi tu bosses. Elle dit, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la technique, parce que je bosse beaucoup autour de ça, sans avoir réellement pris le temps de m'y plonger. Et puis, je dis, mais alors, qu'est-ce que ça représente, la technique, dans ta pratique? Pourquoi est-ce que tu passes sans cesse par ce média-là? Elle me dit, moi, ce que j'adore dans la technique, c'est que la technique, c'est que de la poésie. Bon, ben alors là, on va commencer par ça, parce que la manière dont on thématise la technique en philo, c'est plutôt la technique, c'est catastrophe totale. Il y a une longue tradition de technophobie qui fait vraiment qui prend un contre-pied totalement la réflexion de Julie. La technique, c'est que de la poésie. Pour moi, c'était vraiment une antithèse. Et elle me dit d'ailleurs, Incident, le groupe qu'on a monté avec des collègues il y a assez longtemps, c'était Incident technique, évidemment. Et donc, c'est ça qui nous intéresse et qui fait œuvre et qui fait art, qui suscite la création, en tout cas. Donc, moi, ce que comme trois petites idées que j'aimerais explorer avec vous, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout de tout ça, mais je suis vraiment partie de cette idée, de cette opposition entre la poésie qui, d'un côté, pour Julie, puis je me suis dit sans doute que pour la majorité des artistes aujourd'hui, c'est le cas aussi, c'est-à-dire la technique, c'est ce qui va faire susciter, créer la création. Il y a un rapport ludique sans doute qui est entretenu à l'égard de la technique, et puis en philo, même si on peut y arriver, mais on l'aborde plutôt en termes de au mieux de prudence, je dirais. Donc comment ça se fait que nous on thématise la technique de manière négative comme ça, et puis que par ailleurs, comment comprendre que la technique puisse au contraire ouvrir des possibilités et des champs intéressants? Donc,
tu parlais aussi d'un présupposé commun qu'on pourrait avoir.
Et du coup, après, en creusant un peu, mais tant s'il y a intérêt autour de la technique de la part de Julie, c'est sans doute que c'est une manière de prendre à rebours, à contre-pied, quelque chose qui néanmoins apparaît aussi pour elle comme habituellement plutôt de l'ordre de sans doute l'utilité, du calcul, de l'instrumentalité, mais qui a des usages qui sont nécessairement plus à la marge, ouais, qui permettent d'opérer des retournements et des renversements qui seraient...
Ouais, à la fois ça, et puis aussi peut-être, on en discutera, mais toute la partie affective qu'on peut projeter sur la technique. Ça, on a peut-être moins parlé, mais c'est vrai que j'ai réfléchi à ça après.
Et donc c'est ça, pourquoi une espèce de technophobie intemporelle en philo qu'on retrouve, donc exprimée, explorée de différentes manière, soit dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, je pense de manière très générale, la technique nous confronte forcément à la réalité, elle livre les techniciens à l'épreuve du réel qui d'une certaine manière a le dernier mot, et ça c'est sûr que dans la tradition philosophique, ce réalisme vulgaire, on s'y oppose plutôt, il a tendance à déplaire et on va valoriser davantage des activités spirituelles ou des activités plus nobles de la raison. Et le technicien peut même être qualifié comme l'anti-poète par excellence ou l'anti-théoricien dans la mesure où pourquoi faire quelque chose si le succès d'une opération semble être garanti, ça justifie pour la réaliser. Il n'y aurait pas de plus noble raison et ça on va y revenir. Et puis d'autre part, c'est ce qui est sans doute réactivé, c'est un espèce de schème qui oppose la sagesse, c'est-à-dire une certaine sérénité qui serait obtenue par une maîtrise de soi, par un renoncement joyeux aux choses, alors que le sorcier, au contraire, à l'opposé de cette figure-là, lui parvient à une espèce de maîtrise grinçante des choses au prix d'un renoncement à lui-même, dans la mesure où il va s'adapter au réel, éliminer la question des fins et de l'objectif, pourquoi s'adapter au réel, mais parce que ça peut être plus efficace finalement. Donc ça, ce serait peut-être une première raison de cette opposition entre poète, spiritualité, philosophe et puis technicien qui s'englurait, j'ai envie de dire, dans une matière qui colle, qui est un peu sale, qui est crade, qui est bête. Donc ça, ce serait peut-être la technophobie au sens très général, l'espèce de sentiment commun actuel. Technophobe aujourd'hui, lui, je pense qu'il y a une peur à l'endroit des sciences. Donc c'est aussi avec l'avènement de la technoscience, qui, alors qu'auparavant, la technique, elle pouvait au moins être restreinte dans un domaine, c'est-à-dire que la technique, c'était la science appliquée. La science découvre certaines lois et puis on peut inventer des procédés techniques qui vont permettre de faire des choses, d'intervenir sur le monde. Là, avec la technoscience, ce brouillage justement entre science qui était plutôt valorisée, noble, et la technique, l'intervention sur le monde, cette frontière tombe. Et du coup, et ça je pense que c'est la peur moderne à l'endroit de la technique, c'est que les systèmes techniques développeraient leur propre dynamique. Et voir, alors là, tout est possible, il y aura peut-être, on envisage une autonomisation des systèmes techniques qui pourraient évidemment se retourner contre le créateur. Ça fait très peur, forcément.
Du coup, je fais juste une petite parenthèse, un peu en contrepoint, et puis pour moquer des technophobes dont tu parles, et qui penseraient que peut-être un jour la technique va... Voilà. Et du coup, je lance un petit film de Nan June Paik. Donc c'est surtout la première partie qui m'intéresse, c'est le robot fait de télé avec les bouts de matériel qui peuvent traîner dans son atelier et voilà, et un robot totalement inoffensif et même ridicule.
Peut-être très rapidement, évidemment, cette peur contemporaine à l'endroit de la technique, elle vient pas tout à fait de nulle part non plus. Évidemment, le passage des sociétés traditionnelles aux sociétés industrielles dérive en grande partie de la rationalisation scientifique des techniques, et puis ça entraîne des bouleversements à l'endroit de la vie sociale et de la vie quotidienne énorme. La production économique est transformée, l'instauration du système capitaliste qui s'accompagne de mise au travail forcé, en particulier en Angleterre, qui a bien été thématisée entre autres par Marx, et d'une grande misère, donc ça vient pas tout à fait de nulle part, avec la peur de l'uniformisation aussi des modes de vie, si on est tous soumis, ou si en tout cas le rapport qu'on entretient aux autres, à soi-même et au monde, est médié par des techniques qui sont communes. La technique, les artefacts, donc dans un sens très général, est-ce qu'ils sont neutres en eux-mêmes? Et donc, dépendamment de l'usage qu'on en fait, est-ce qu'on forme justement ceux qui vont utiliser ces artefacts, à les connaître, à en comprendre le mécanisme et donc à pouvoir se les réapproprier? Est-ce que la technique est neutre et donc, dépendamment du rapport qu'on instaure à la technique, il y aurait usages au contraire bénéfiques? Ou est-ce que, et ça c'est par exemple Heidegger répondra non, c'est illusoire, ou est-ce que la technique instaure d'emblée un certain rapport au monde qui est unique et qui fait qu'on ne peut même pas espérer avoir de bons usages de la technique, puisque d'emblée, ces instruments nous invite à entretenir un rapport utilitaire au monde. Et donc, ça, il n'y a pas de bon usage à espérer. Peut-être que ça, je peux y revenir un tout petit peu plus tard, parce que ça s'enchaînera bien entre certains concepts de base, finalement, tirés de l'Antiquité, et puis comment c'est repris et transformé plutôt par des... au XXe siècle.
Ouais. Mais juste une question, est-ce que ce rapport utilitaire au monde, c'est pas quelque chose d'assez moraliste comme vision ? Parce qu'on pourrait, envisager qu'avoir un rapport utilitaire au monde, c'est quelque chose de très bien et de très intéressant.
Pourquoi pas ? Sauf que... Ok. L'idée, grosso modo, c'est que c'est conçu avant tout comme une restriction, un appauvrissement fondamental de ce qu'on appelait la raison, et surtout ce que l'idéalisme allemand a thématisé comme la raison. Alors ça, la raison, c'est quelque chose de très très large. C'est Aristote qui thématise ça beaucoup. Il y a trois domaines, trois champs spécifiquement humains. On peut, il y a la théoria, donc la théorie. Dans la théorie, la subjectivité ou la raison est passive, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. Et pour atteindre le vrai, en fait, il faut contempler, tourner son regard vers les idées et non vers les apparences, vers les formes, vers la forme pure. Donc ça, c'est un questionnement autour du vrai. C'est une manière d'utiliser sa raison. Mais il y a aussi la praxis, qui est donc le champ de l'action. Et là, cette fois-ci, la raison vise plutôt le juste, les questions du juste ou du bon. On peut élaborer des raisonnements à l'endroit du juste et du bon, et espérer ensuite, évidemment, réguler nos comportements individuels et collectifs à l'aune des critères qu'on aura en démocratie ensemble, définis comme bon ou juste. Donc ça, c'est la praxis. C'est une action qui a sa fin en elle-même. Autrement dit, faire une action juste ou bonne, c'est pas en vue d'obtenir autre chose, c'est parce que en soi-même, c'est bon et ça apporte ça n'apporte pas du mieux-être, en fait. C'est bon en soi. Donc, on fait ça, non pas en vue d'obtenir quelque chose, mais pour soi-même. On trouve un gain inhérent, intrinsèque. Et puis, il y avait aussi la poétique, chez Aristote, qui est une action qu'on va entreprendre en vue d'autre chose. Et ça, ça englobe l'activité productrice, qui comprend aussi bien ce qu'on va distinguer ensuite, mais très tard en Occident, entre d'un côté le beau et de l'autre côté l'utile. C'est-à-dire que au départ, l'action de production, répondre aux besoins fondamentaux pour vivre, il faut au moins produire à manger, on le fait d'une certaine manière, donc il y a d'anglais de la culture qui est impliquée là-dedans, et puis il n'y a pas cette distinction entre utile et beau, et je pense que là c'est une distinction qu'on applique aujourd'hui, puisque ensuite il y aura justement les artisans d'un côté, les artistes de l'autre.
Et après le Bauhaus qui réunit les deux, en plus.
Après, on peut espérer réunir les deux, carrément. Et puis pour certains, les musées des arts premiers, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, on n'applique pas nécessairement cette catégorisation, puisque ce qu'on va exposer, c'est souvent des objets utiles,
De culte,
mais qui sont faits d'une autre manière, et donc on est capable de les voir cette fois-ci comme, en tout cas, esthétiquement intéressants, alors que même au musée, il y a des musées de pratiques artisanales, mais sinon c'est plutôt de l'art, le beau, puis ça n'a pas besoin d'être utile, voir si c'est inutile. C'est peut-être un signe justement de supériorité spirituelle, ou je ne sais pas. Mais donc il y a ces trois champs, la raison, vraiment, ou la spécificité humaine, ce qui fait que les hommes ne sont pas des animaux. Ils font de la théorie, ils font de la praxis, et ils font aussi de la poétique, c'est-à-dire ils produisent...
La création.
Donc la création est complètement dans la poétique, tout à fait. Mais par rapport à cette question de... peut-il y avoir des usages ? Est-ce qu'on peut distinguer la technique à partir des usages qu'on en ferait ? Et donc est-ce que la technique serait neutre ? J'étais revenue avec ces praxis, poiesis et théoria, pour expliquer que il y a... Ça, on hérite d'une tradition de la raison qui était, donc on entrevoyait comme possédant de multiples facettes, donc il y avait un champ d'intervention très très large, et puis la manière dont on définit la technique, donc c'est ce qui est utile, ce qui permet d'être plus efficace, l'ensemble des procédés qui vont nous permettre d'obtenir un résultat de la manière la plus rapide, concise et efficace. Pourquoi certains répondent que non, on ne peut pas distinguer entre des bons usages d'un côté et des mauvais usages de l'autre, mais que c'est que la technique nous impose d'emblée un rapport utilitaire au monde, c'est qu'ils interprètent justement la technique qui est une de ces trois facettes, et même une demi de ces trois facettes, puisque c'est ni de la praxis, ni de la théoria, et c'est la moitié de ce qu'on appelait la poésie, c'est-à-dire ça ne contient pas, ça ne concerne pas le beau, mais c'est simplement l'utile. Et donc, la technique, c'est qu'une possibilité infime d'employer sa raison. Et donc, si le rapport utilitaire au monde domine, si on n'a que des artefacts partout, et que je me rapporte à moi-même, je me rapporte aux autres, je me rapporte au monde via les techniques, ça veut dire qu'en réalité, j'appauvris énormément mon monde, puisque plus jamais je ne me pose de questions d'ordre, par exemple, esthétique, d'ordre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, d'ordre éthique, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. La seule chose qui ne m'intéressera plus désormais, c'est le fait que ce soit utile. C'est en ce sens-là où certains, dont en particulier Heidegger, vont dire que la technique, bon, c'est une catastrophe du point de vue de l'histoire de l'être, mais aussi du point de vue existentiel de l'homme, et que l'homme est inauthentique à cause du déploiement de cette technique moderne, parce qu'il a vraiment rétréci, il a appauvri son être propre, c'est-à-dire qui il est. Quand je vais m'intéresser aux autres, simplement s'ils me sont utiles, alors, dans la carrière, dans ceci, dans cela, je vais observer, lui prendre l'exemple du rein. Même la nature, on ne convoque plus que l'environnement naturel au titre de leur utilité pour des projets qu'on a. Donc, désormais, le Rhin, le fleuve, plus personne n'y voit la mythologie germanique inventée par Goethe et d'autres, etc. Plus personne va y voir la possibilité éventuellement de se ressourcer, de retrouver une certaine sérénité en observant ce flux régulier. Mais ce fleuve, pour nous, ne représente, quand on construit un barrage, ça, on n'est plus du tout dans le romantisme, on voit des forces, un certain flux qui pourra nous aider à produire telle quantité d'énergie.
Ouais. Est-ce qu'il y a un projet justement d'immobilier? C'est pas cette question-là que tu soulèves, en partant d'un élément naturel qui est le bas, il y a des valeurs finalement sur lesquelles tu attaches qui sont des valeurs de compte, sur le nom de la plante qui va filtrer la lumière, qui permet à d'autres.
Bah, tout à fait, je crois qu'il y a un questionnement qui. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est assez difficile pour moi d'envisager les choses. Mais en tout cas, c'est effectivement de me poser la question de comment la nature est organisée et comment, du coup, elle va pouvoir produire des solutions en fonction de son environnement, donc des solutions techniques. Puisque là, pour la plante en question, c'est le fait exceptionnel de laisser passer la lumière, mais retenir les ultraviolets, ce qui lui permet de se développer à plus de 5 mm d'altitude. Et puis, effectivement, ce que pointe est clair, c'est que cette plante, finalement, elle a aussi une tronche de casque de cosmonaute ou quelque chose qui pourrait. On a l'impression de voir. On a l'impression de voir un matériau qui pourrait être réutilisé de manière scientifique pour une vraie fonction, puisque cette fonction de revenir les pulsaires et en même temps laisser passer la lumière, c'est des choses que nous, on a pu reproduire de manière artificielle. En ce qui concerne la technique dans l'art, tu me posais la question aussi, Claire, mais qu'est-ce qu'il en est de cette. Est-ce qu'il y a une phobie de la technique dans l'art? Effectivement, oui, il y en a une. Je pense que la plupart des artistes, encore aujourd'hui, essayent d'éduquer la technique comme si elle n'existait pas. Pour enseigner dans une école d'art, je le sais, c'est effectivement quelque chose un peu de sale auquel on ne veut surtout pas se confronter. Et c'est quelque chose, donc là je me base sur les écrits de Nathalie Heinisch dans Les Mythes Artistes. C'est quelque chose de culturel et qui est issu l'après-révolution française avec l'émergence de la bohème où les artistes ne sont plus envisagés sous un régime avant la révolution française. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les seuls qui tirent leur épingle du jeu de la révolution française et qui continuent à avoir des privilèges, ce sont les artistes. Et ils créent une nouvelle nouvelle catégorie. Tout le monde perd ses privilèges, sauf eux. Et on se transforme. Donc, les corporations qui étaient des artisans depuis le Moyen-Âge, quand on était peintre, on faisait partie d'un atelier, on avait un maître, on appelait une technique depuis ce maître-là. Léonard de Vinci, c'est un technicien absolument incroyable, etc. Il y a des exemples à n'en plus finir. Mais à partir de la Révolution, on n'est plus dans des corporations, mais les artistes vont devenir des individus. Et avec la bohème, ils vont être envisagés dans ce qu'on appelle un régime de la vocation. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est artiste parce qu'on est né artiste, parce qu'on a une vocation. Alors qu'avant, on n'était pas artiste par vocation, on était artiste parce qu'on était dans cette corporation et que son père était là-dedans ou qu'on avait un maître qui nous enseignait. Donc,
C'est justement cette distinction entre Bohème, l'artisan, l'artiste qui se met.
Voilà.
Oui, mais pourtant, c'est à un moment où le monde industriel, au pilier de la technologie, où là, les artistes on est passé de la peinture à la photographie, la technique. La technique est vraiment aussi intervenue ensuite dans d'autres médiums. Même le cubisme, quelque part, c'est lié à une représentation technique, quelque part, de la 3D.
Mais l'art est toujours lié à la technique. Quand tu vois l'apparition, par exemple, des tubes de peinture,
voilà, bien sûr,
ça produit un peu les impressionnistes. Hein. Enfin, tu vois, tu peux pas dissocier un moment une avancée technique.
Mais si, je pense qu'il y a eu quand même une dissociation à un moment donné sur la technique, comme quoi la technique, c'était pas le truc le plus important.
Tout à fait, la technicité,
c'est la notion du concept qui revient en avant, éventuellement avec Duchamp, mais même déjà post-impressionniste. Quoi, déjà. Dans l'impressionnisme, on est encore dans la technique comme objet qui va permettre de réaliser une œuvre. C'est la technique qui permet de voir, c'est la technique impressionniste, quoi, la technique cubiste, etc. Mais quelque part, après Duchamp, la technique, pour moi, Duchamp, quelque part, c'est celui qui a dit la technique, on s'en fout, le médium, on s'en fout, parce que le médium, on peut pas non plus le séparer de la technique. À un moment donné, il y a aussi cette distance par rapport au médium et donc à la technique.
Ouais, et bizarrement, Duchamp, qu'est-ce qu'il peint quand il peint par exemple le grand verre, il produit un objet mécanique. Enfin, son rapport à la mécanique,
c'est presque une critique de ça en fait aussi. C'est, oui. En même temps, c'est de dire, enfin, pour moi, le grand verre, c'est quelque part, il a passé 10 ans dessus. C'est presque une. Anti-technique. C'est presque anti-technique.
Ouais, mais ça représente un objet mécanique.
Parce que lui il représente la machine à broyer le chocolat. Enfin, ce truc-là, c'est presque un foutage de gueule de la technique aussi. Finalement, la technique, ben, voilà, on l'utilise, on la jette, on s'en fout. Il y a quand même une rupture quand, à ce moment-là, je trouve vraiment. Quoi.
Ben, moi, je pense que c'est typiquement un héritage. Pour moi, c'est un héritage de la bohème. On est encore dans ces.
Oui, bien sûr, de toute façon, c'est le début du XXe siècle, c'est le début. Ouais.
Mais comme tu dis, de toute façon, l'art avec la mise en avant du concept, c'est un peu une poursuite de cette rupture avec, non pas nécessairement la technique comme objet justement qu'on va pouvoir se réapproprier, qui devient peut-être un nouveau matériau à explorer, mais c'est une rupture avec le fait de confondre artiste et artisan, et donc artiste-artisan, celui qui possède une technicité extraordinaire et qui va réussir à peindre le portrait de la duchesse de je sais pas quoi.
Moi, je dirais peut-être, tu vois, au contraire, que Duchamp, ce qui met en jeu, c'est le fait que l'art devient une technique en tant que telle. C'est-à-dire qu'on
devient une technique
de l'esprit, mais on passe dans quelque chose qui était de l'ordre de la représentation à quelque chose d'abstrait. Et on est dans la conception, dans la technique, on est toujours dans la conception d'objets, on est toujours dans la fabrication. Et là, on est avec...
La fabrication de cet objet qui fabrique.
Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça serait peut-être.
Oui, mais il y a quand même une séparation. Aujourd'hui, les artistes, ils peuvent juste avoir une idée et prendre une équipe.
Ouais.
Je veux dire, moi je suis pas technique, je suis pas électronicien, je travaille avec des électroniciens. Parce que je sais pas le faire, j'ai pas le temps d'apprendre. Et je veux dire, c'est vrai aussi dans. Le médium n'est plus du tout le il est quand même le support important de ce qu'on veut dire, mais c'est un choix. Mais ensuite, c'est pas nous qui réalisons éventuellement. Enfin.
Carrément, carrément. Et ça, du coup, on voit bien que c'est possible parce que justement, quelque part, l'artiste est tombé du côté de la pensée ou de la création du concept et n'est plus artisan, juste celui qui possède bien une technique, sinon tu vas être éventuellement que technique, enfin, que menuisier ou je sais pas quoi. Mais
non, mais c'est pas la fuite en avant, c'est-à-dire qu'il peut l'être, il peut l'être aussi. Mais je pense qu'après, c'est justement ce spectre de liberté entre j'apprends une technique, je l'applique, mais si elle ne supporte plus mon propos, je la jette ou j'en utilise une autre. On n'est plus dans la sublimation.
Ouais, et en même temps.
On est plus dans une esthétique.
Moi, j'ai l'impression que dans la technique, il y a presque que de la sublimation. Je vais vous montrer deux extraits de. Là, c'est les machines fumées de Jules-Étienne Marais.
À la fois, avant, la technique servait à produire une œuvre, c'est-à-dire que c'était la peinture, c'était la photo. À un moment, on produit des objets techniques pour faire de l'art, et maintenant, en plus, soit avec le cinéma ou les arts numériques et tout ce qui est installation interactive, non seulement la technique, elle est présente au moment où tu le crées, mais elle est présente au moment où tu réceptionnes. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, tu as une machine qui t'envoie des images, quand tu es devant une installation, tu as un ordinateur, et le fait d'avoir mis la technique au centre du dispositif de vision, et ben là ça pose problème. Alors qu'elle était toujours dans le processus, elle n'a jamais quitté le processus. Et là, de la faire apparaître de manière, on va dire, franche au spectateur qui va réceptionner là, ben là ça pose un problème.
C'est pour ça que moi je trouve ça en même temps très, très intéressant. Je pense pas qu'on est tant dévié que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esthétique, les catégories de l'esthétique sont travaillées à chaque époque d'une manière ou d'une autre et se heurtent à cette limite autour de la question de la technique, de la technicité. Est-ce que c'est interne? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on veut le refouler au contraire à l'extérieur et l'instituer comme altérité? Est-ce qu'on finalement on le repousse du côté de ceux qui recevront l'œuvre? Est-ce qu'on.
Non, mais c'était vrai pour la photo, c'était vrai pour la vidéo. Et pour le numérique, c'est plus compliqué quand même.
Il y a une dimension qui est vachement, qui a changé justement avec les techniques récentes, c'est l'aspect loisir. C'est-à-dire que sur le fait que la technique peut être centrale avec la perspective entre art technique, avec le 18e, le siècle des Lumières, avec Bauhaus qui sait le faire entre art et design, avec cette dernière technique numérique, on est entre art appliqué, mais on va jusqu'au loisir. Et c'est justement avec ces festivals qui sont montés dans les années 70-80, où allant jusqu'au loisir, en montrant des films de Pixar à côté d'une œuvre, d'une installation, où on a brouillé les pistes.
L'entertainment.
Exactement. Et en fait, là, à force d'élargir...
Parce que tu peux dire, à la limite, la photo ou la vidéo, tu as la photo artistique et la photo de Monsieur Tout-le-Monde, mais ça reste de la photo, je veux dire, c'est un médium très cadré finalement. Le numérique, ça va partout, c'est de l'eau, quoi. C'est partout. C'est sa force et sa faiblesse.
C'est sa force qui est...
Mais du coup, on en revient à la question du contexte. Est-ce que ce qui est artistique, c'est ce qui s'inscrit dans le champ de l'art et dans le domaine de l'art? Comme la musique adoucit les mœurs, je vous passe un petit extrait de Thérémine. Situé peut-être. Est-ce que tout le monde connaît Thérémine ou pas?
Non, est-ce que c'était un vrai instrument?
C'est un instrument, alors c'est le premier instrument analogique. Okay. C'est-à-dire c'est un instrument électronique qui consiste donc en un boîtier et c'est les mouvements, la position des mains qui va produire le son. Okay. Alors c'est assez incroyable parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre quelqu'un chanter. Donc on est vraiment dans l'émulation d'une voix humaine.
C'est le premier instrument qu'on touche pas.
Mais je me demande en fait, quand tu parlais de Heidegger qui critique la technique, et je pense que c'est quelque chose qui va. Je me demande en fait si on parle vraiment toujours la même chose dans cette conversation. Est-ce qu'on ne confond pas la technique savoir-faire, celle qui est utilisée, convoquée pour créer, qui est utilisée aussi par des artisans, etc., pour produire, pour créer. Donc vraiment un savoir-faire, et puis une technique qui est plus une technologie, qui engrame des rapports de domination, qui sont. Réutiliser quand il s'agit d'une société de consommation, qui permettent de réifier un certain rapport au monde, de le systématiser, puis de faire en sorte que ce soit plus changeant. Est-ce que c'est pas cette technique-là qui a été déjà critiquée plutôt que le savoir-faire d'un artiste, d'un fabricant de sabots?
Non, c'est pour ça qu'au départ, je t'ai revenu avec mes vieilles grosses catégories l'antiquité, c'est que la technique comme justement méthode d'ensemble de procédés pour efficacement obtenir un résultat, ça tu l'as aussi dans les technicités de l'esprit. Les, par exemple, la mnémo, les procédés mnémotechniques, par exemple, c'est aussi des moyens que tu trouves, ça s'applique aussi au registre intellectuel. Tu peux trouver des moyens pour penser plus efficacement, par exemple. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il y a une guerre qui s'engage entre Platon et les sophistes, puisque Platon reproche aux sophistes d'utiliser le logos, en plus la raison, non pas pour essayer d'accéder au vrai comme lieu du savoir, mais pour transformer ça en instrument de pouvoir apprendre à faire, bien raisonner, en tout cas faire semblant de bien raisonner, utiliser cette faculté de la raison et de la parole pour obtenir ensuite des charges importantes dans la cité. Donc il y a une instrumentalisation du logo, c'est la première technique qui est pointée du doigt par Platon, c'est justement des techniques intellectuelles. Et il s'en prend aussi beaucoup à l'écriture qui, selon lui, corrompt les mémoires de manière définitive, parce qu'on écrit, on n'a plus besoin de revenir ça dans notre tête, et donc il se pose d'abord. Mais par rapport au... Tu as dit quelque chose tout à l'heure que je trouvais intéressant, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur le rapport justement entre les artistes, alors peut-être qui travaillent dans le numérique, mettons par hasard, et qui bossent avec une équipe de techniciens, et du coup, parce qu'on a parlé de cette distinction entre artistes et artisans, ensuite des manières d'y revenir, puisque justement c'était sans doute la norme, etc. Mais quand cette scission existe, j'imagine qu'elle ne peut jamais être totale, parce qu'il faut bien avoir une idée de, justement du procédé en lui-même, de comment ça fonctionne pour pouvoir inventer des choses avec, ou avoir l'idée de faire ceci ou cela. Et j'aimerais bien savoir ça, entre autres parce que, je vous en parlais peut-être un petit peu, autour des nanotechnologies, il y a tout un renouvellement du rapport à la matière qui s'opère et qui est super intéressant. Et donc, peut-être que ça nous amènera vers là, mais pardon, toi, comment tu conçois ce rapport avec une équipe de techniciens? Tu suis, j'imagine, tu sais,
Mais le nano, c'est humain, donc si on ne voit pas.
On représente, on montre ce qu'on ne voit pas.
Ah oui,
moi c'était pas par rapport
au microscope. Par exemple.
Non, mais par exemple, le lapin vert de Édouard de Pâques, ça fait appel à un processus. C'est des gènes de méduse, c'est ça qui sont.
Pour le lapin, c'est un très très bon exemple, puisqu'en fait, Édouard de dit. Moi, j'ai commandé le lapin. Après, est-ce que le lapin est un ready-made? Est-ce que lui n'est pas d'accord? Bon, etc. Peu importe. Mais lui dit, j'ai commandé le lapin. Mon geste artistique est de l'avoir commandé. À des gens qui savaient le faire, mais qui ne l'avaient pas fait, qui avaient pu le faire avec d'autres animaux. Mais moi, j'ai commandé un lapin génétiquement modifié vert, dont on ne voit qu'il est vert que quand on l'éclaire. Ce qui a fait peur à l'INRIA, qui l'a pas laissé sortir, parce qu'ils ont eu peur de la réaction, lui voulait, mais lui, justement, il est très intéressant dans ce rapport entre l'artiste, l'artisan, l'artiste, les collaborateurs, c'est que lui dit, moi je commande. Pour Genesis, il dit, j'ai commandé par Internet un gène qui n'existait pas, que j'ai composé, ce que tout le monde peut faire ici autour de cette table, ça coûtera quelques dollars. Mais j'ai envie de dire, Richard Serra commande au même fondeur ses plaques d'acier. Donald Judd dans son usine, c'est des choses qui ont toujours existé. Et il y a d'autres modèles comme le cinéma, où on sait que c'est obligatoirement un travail d'équipe, ce qui n'interdit pas qu'on travaille avec les mêmes. Je pense par exemple Godard et sa monteuse, ou dans le cinéma, on sait que les chefs-op et les monteurs, par exemple, sont. Et pourtant, ils signent. Et on retrouve justement cette idée dans les arts numériques, comme par exemple Golan Levin, qui lui signe toujours et Ali, et les autres, pour dire je ne fais jamais seul, mais il met quand même son nom.
Donc, c'est la question de la mise en œuvre, et puis le terme mise en œuvre, il n'est pas innocent.
c'est oui. faire une œuvre pour... Donc c'est la question de la spécificité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un savoir-faire technique que tu ne peux pas acquérir parce qu'autrement tu passerais ton temps à faire ça et tu ne pourrais pas passer ton temps à faire de la conception, de la création, etc. Tu n'as
plus le temps de penser.
Voilà, tu n'as plus le temps
de penser. Mais c'est là où justement...
Mais tu dois être quand même conscient du global et de ce qui est possible de faire. Enfin, c'est, on a tous été confrontés à ça. Tu ne peux pas, commander quelque chose au programmeur ou un technicien si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et en même temps, de savoir comment ça fonctionne, ça va aussi te donner des idées.
Exactement, c'est pour ça que je questionnais le rapport, j'ai envie de dire direct, le contact avec le matériau outil numérique, ou pas, parce que tout à l'heure on parlait du bidouillage et de bricolage, et par exemple, c'est Bernadette Benzo de Vincent qui a beaucoup bossé sur les gens qui travaillent dans les nanotechnologies, et qui a réussi à mettre en évidence que la manière dont ils se représentent leur travail, plus à l'opposé d'un schéma assez classique où on va informer la matière, on a une idée puis on va la modeler comme un peu avec de la pâte à modeler. Au contraire, ils conçoivent leur activité comme du bricolage. Et donc, c'est comme s'ils passaient contrat avec des matériaux. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher vraiment la singularité de matériaux.
Ouais, l'éprouver, quoi.
L'éprouver, mais plutôt que d'avoir une matière dont on va tirer des lois générales, on va comprendre comment elle fonctionne et à partir de là, on va l'appliquer ou éventuellement essayer d'opérer quelques petites dérogations. Ils ont vraiment l'impression, ils décrivent leur activité comme un bricolage, alors que c'est du nano, donc tu ne peux même pas dire les mains dedans.
Et ce qui est intéressant, c'est la question de la curiosité. C'est-à-dire, comme tu dis, on ne peut pas ignorer les médias, les pratiques que l'on sollicite, qu'on utilise. Il faut donc les connaître un petit peu. La question, c'est jusqu'où les connaître. L'exemple, c'est Vinci, qui à un moment donné, voulant peindre, on va dire, une femme, regarde son bras, se dit, tiens, finalement, il faut que je m'intéresse à la musculature, plus ça l'emmène à la mécanique, plus ça l'emmène, etc., etc. Et il va finalement, Vinci, parfois se perdre pour revenir à l'œuvre et donc mettre un temps infini pour faire finalement si peu d'œuvres alors qu'il aurait pu en faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, même ses fresques, il était tellement, comme il était perfectionniste, en fait, il mélangeait avec un petit peu d'huile pour que ça sèche un peu moins vite, ce qui fait que la plupart de ses fresques, en fait, ont disparu. Et on a tous comme ça cette peur de se perdre, à se dire à quel moment je dois arrêter de m'y intéresser et passer la main. Et passer la main, c'est vachement difficile parce qu'on a tous cette envie de pouvoir tout faire tout seul. Et à un moment donné, il faut savoir peut-être se freiner dans cet appétit gigantesque pour pouvoir essayer de se révéler ici ou là.
Alors ça, tout à fait, mais je pense que c'est précisément pour ça que je posais la question, c'est que c'est le passage de main, il est possible, en tout cas, il est... cohérent avec un schéma de pensée qui va justement prendre, qui va être capable de retirer la conception ou de lui ménager une place à part et ensuite justement quelque part on l'applique, hein, pour caricaturer dans un sens, alors que si on pense que la conception et la création ne naît que d'une confrontation directe avec les matériaux, alors le geste de déléguer devient problématique, puisque si tu délègues toutes les sources finalement de
une certaine partie de ce. Du coup, c'est pas de la délégation.